Bonjour, au micro Claude Boulanger pour un tour du monde. Vous vous en compagnie de mes deux invités, Isabelle et Xavier Véron. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vous avez laissé vos vélos à la porte du studio, hein, c'est à peu près ça qu'on peut dire, puisque quand avez-vous effectué ce tour du monde à vélo?
Ça a commencé en juillet 99.
Oui.
Et on est revenu à Paris à peu près le 14 avril 2001.
Et avec un sentiment, plus d'un an, 21 mois
21 mois, oui, presque deux ans.
Est-ce que la durée, longue durée, compte pour faire un tour du monde? Je veux dire que ce sentiment, alors qu'aujourd'hui, avec les avions, tout ça, ça va si vite, le sentiment de durée, d'être parti longtemps, compte?
Ben énormément. Le but d'un tour du monde, c'est pas d'aller quelque part, c'est le déplacement qui fait le voyage.
Ah. Et ce qu'il faut aussi, le voyage, c'est la possibilité de s'imprégner du lieu dans lequel on est. Et pour ça, même un mois par pays, c'est beaucoup trop peu.
Beaucoup trop
peu. À mon goût.
À votre goût. Donc 21 mois. Donc en principe, comme vous dites, nous aurons 21 pays avec vous.
Approximativement.
Oui. Approximativement. Alors, déjà, on va vous dire, vous êtes tous les deux tout jeunes. Vous êtes photographe, Isabelle?
Oui, je suis. J'ai une formation journalistique, mais je suis devenue photographe pour pouvoir financer mes voyages.
Et vous aimez photographier quoi d'habitude? Tout. Mannequins, paysages.
Oui, plutôt les gens, les situations, les regards, mais ça évolue en fait. J'apprends au fil du temps.
Et vous, je crois que vous êtes ingénieur informaticien?
Oui, je travaille dans l'informatique et j'ai donc dû démissionner pour pouvoir voyager. À mon avis, c'était le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Et j'ai recommencé à travailler à mi-temps ou tiers-temps ou quart-temps, ça dépend des jours, dans l'informatique par-ci par-là, pour gagner ma vie et aussi parce que quelque part ça m'intéresse. Mais ce n'est pas actuellement le centre de ma vie.
Et le centre de votre vie, c'est de rendre compte de ce voyage, de nous faire partager?
Oui, exactement. En fait, ce voyage, il y a eu plusieurs retombées de musique qu'on a collectées. On voudrait sortir des CD audio qui seront intégrés dans un livre que Isabelle et moi publions.
C'est ça. On va dire que ce livre, il va sortir fin octobre. Il s'appellera « Écho d'Orient » aux éditions Transboréal, qui est émis par Eric Fussé, qui est venu à cette radio. Et c'est une excellente maison d'édition. Alors, bon vent à votre livre par avance. Et en somme, pourquoi aviez-vous voulu collecter, parce que le mot peut-être un peu ethnologique, collecter ces musiques? Pourquoi on va... Quelle était l'idée générale de votre volonté de voyage?
On n'est pas musiciens, ni l'un ni l'autre, mais on cherchait un thème qui nous permette d'aller chercher quelque chose de positif dans les autres cultures. Et en fait, la musique s'est un petit peu imposée, ça s'est fait un peu par hasard, et après on s'est rendu compte que finalement c'était vraiment un vecteur idéal. Parce que ça touche à tout, ça touche à la fois aux naissances, aux mariages, aux rituels, aux religions. La musique vraiment permet de s'imprégner dans les différentes cultures en touchant à plein de domaines différents.
Et beaucoup de catégories de populations différentes aussi. On peut avoir des musiques savantes au même titre que des musiques très primitives et toutes sont touchantes, mais pour peu qu'on prenne le temps de les écouter et de les réécouter et de s'en imprégner.
Donc, un élément positif intersocial, interpays, qu'on peut comprendre d'un pays sur l'autre, c'est aussi ce qui unit le mieux les hommes, pour vous, ou pas?
Disons que c'est totalement universel. Maintenant, je pense qu'il y a des musiques qu'on a du mal à vraiment apprécier quand on les a jamais entendues en étant jeune, sans on est vraiment rendu compte. On avait tous les deux des CD de musique classique qu'on voulait faire découvrir aux gens qui nous accueillaient, par exemple, et on a très vite abandonné l'idée parce que le Stabat Mater de Pergolèse, par exemple, dans les pays d'Afrique du Nord, ça les ennuyait.
Oui, c'est peut-être ça.
Je me souviens qu'une fois en Mongolie, j'ai vu l'expression d'un homme changer complètement, et sa fille, après, quand il lui a fait écouter, il entendait donc ce Stabat Mater, et il trouvait ça fabuleusement beau. Et sa fille aussi était au 7e ciel, on aurait dit.
Bon, alors, ça passe pas, mais Mozart, par exemple, ça marcherait pas mieux comme lien?
Ah non, Mozart. Enfin, alors, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on avait, du Mozart pur, mais on avait aussi Mozart l'Égyptien. Mozart l'Égyptien, c'est un CD qui a été fait, et où ils ont demandé à un orchestre égyptien de jouer avec un orchestre philharmonique classique et avec des instruments égyptiens. Et ça, par contre, comme ils reconnaissaient le darbouka, l'oud et certains instruments comme ça, ils avaient plus envie d'écouter. Et c'est vraiment intéressant de voir que les gens sont profondément liés aux musiques qu'ils ont entendues dans leur enfance, aux musiques qui font partie de leur culture, Et sinon, ils ont un peu de mal à les connaître. Et nous-mêmes, on s'est rendu compte de ça en Chine, notamment, où il y a certaines musiques qui ne nous touchaient pas du tout.
Alors, on va partir avec vous à la découverte. Alors, vous avez eu la gentillesse d'amener toutes vos musiques que vous avez enregistrées. Alors, petit détail, vos musiques, elles étaient dans des magnétophones, dans les sacoches, les vélos, parce que c'est lourd à transporter tout ça en plus, non?
Oui, heureusement, c'est bien organisé. On avait un lecteur de mini-disques et on enregistrait sur des petits mini-disques de 74 minutes tout ce qu'on pouvait en stéréo. On renvoyait au fur et à mesure les mini-disques précieux en France qui étaient mis de côté par la boîte de production. Et puis, on en recevait de nouveaux vierges sur lesquels on réenregistrait de nouvelles musiques.
Ah oui, Xavier, je comprends bien que mini-disques ne pèsent pas lourd, mais l'appareil d'enregistrement, les appareils de photo, tout ça, non, ça va.
Disons que le lecteur de mini-disques est gros comme un Walkman. Est très très fiable, et d'autre part il y avait une caméra vidéo, petite caméra tri-CCD Sony, donc ça faisait, c'est la taille d'une caméra vidéo, un bon caméscope.
Chacun
sur son... Avec une seule caméra, c'était Xavier qui l'a porté, ainsi que le mini-disque et l'ordinateur portable.
Ah mais les poids lourds c'était pour vous?
Non, pas forcément, on s'est réparti la charge.
Ah oui. Et moi j'avais tout matériel photo qui pesait au moins aussi lourd en fait que le vélo de Xavier tout entier.
Voilà, alors la première musique que vous avez choisie, ça s'appelle Tarif de nuit. Qu'est-ce que c'est? C'est une bonne manière de partir.
C'est un groupe qu'on a enregistré dans le Morvan en France, à peu près 2 semaines après le départ. Et c'est l'instigateur de ce groupe s'appelle Thierry Bruno. Et il joue de la vielle. Et il est complètement passionné par son instrument. Et il a expérimenté la vielle dans différentes formes de musique, y compris le hard rock et le thrash, et il a fini par créer ce groupe Tarif de nuit, qui n'existe malheureusement plus maintenant, et dans lequel il jouait la vielle avec une guitare acoustique classique et une contrebasse, et ça donne ce qu'on va entendre.
Voilà, parce qu'on va dire que vous partez donc Paris, le Morvan, vous passez par l'Espagne, le Portugal,
hein, c'est bien ça. Ça, c'est pour le retour. Après, on est allé vers l'Italie.
L'Italie, l'Afrique du Nord, ouais. On va voir le pays du Moyen-Orient pour après rejoindre l'Extrême-Orient, traverser l'océan, on dit ça tout de suite, passer par le Brésil et revenir par l'Espagne.
Voilà, Portugal-Espagne.
Mais bien que ce ne soit pas sur notre parcours, la musique qu'on va écouter là est influencée par des tendances scottish, d'Écosse.
Oui, mais ça c'est une petite touche écossaise dans l'ensemble. Je précise, vous êtes bien sur fréquence de notre radio, 01 45 72 6000, fréquence protestante, et nous sommes avec Xavier et Isabelle Véron. Alors Isabelle et Xavier, vous pédaliez dès l'aube, ou à quel moment, quand il pleuvait, comment ça se passait par exemple? Je prends le Morvan qui me paraît un coin un petit peu aquatique.
Alors c'était pas du tout aquatique quand on y est passé, il y avait un soleil resplendissant, mais là vous mettez le doigt encore sur une différence entre Isabelle et moi. Isabelle est une lève-tôt, et pour ma part j'ai beaucoup plus de plaisir à me lever à 10h du matin, donc il arrivait que Isabelle se réveille avant moi et parte avant moi.
Non, ça, à partir de la Libye, avant, je t'attendais.
Ah, c'est les moi qui ont creusé la différence. Mais donc, vous aviez vous couché sous une tente, comment vous faisiez? Détail général, hein, pour tout le voyage, où vous étiez chez l'habitant, en quelque sorte.
En Europe, c'est pas évident de dormir chez l'habitant. Ça fait partie des choses qui nous ont beaucoup marqués pendant le voyage. Quand on est dans les pays musulmans, par exemple, l'hospitalité est époustouflante, c'est incroyable. Il suffit de demander la route à des gens pour qu'ils vous invitent à manger
même
ou à dormir.
Même pour une femme?
Ah, même pour une femme, ouais. Je me suis jamais sentie en danger dans les pays musulmans, alors qu'on s'est souvent séparés et qu'en Iran, ça m'est arrivé de traverser pas mal d'endroits seuls et tout.
D'accord. Alors, dans le Morvan, non, ça marche pas.
Dans le Morvan, on avait soit on dormait sous une tente. Oui, dans le Morvan, là pour le coup, par exemple, on était chez Thierry Bruno quand on était...
Ah oui, d'accord.
Vers Château-Chinon. Et puis sinon, après, ça dépendait. Il faisait beau à cette époque-là. Donc on était souvent sous la tente ou à la belle-étoile.
Et on avait une tente. Donc
une tente. Alors, pourquoi avez-vous choisi de passer par le Portugal comme première étape.
Non, non, c'était l'Italie.
À propos, on a choisi l'Italie.
Parce qu'on voulait, quand le voyage est né très vite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Xavier voulait partir en Syrie, à vélo. Et,
Vous venez de la Syrie à vélo?
J'avais eu la chance de pouvoir y faire un voyage un an avant. Mmh. Et je pense que quand on va une fois en Syrie, il faut absolument qu'on y retourne et y rester plus longtemps parce que c'est un pays incroyable. On s'en imprègne très facilement. Mmh. Donc, je voulais y retourner. J'en ai parlé à Isabelle. Et Isabelle m'a dit, la Syrie, oui, si tu veux, mais moi, je voudrais faire un tour en Mongolie aussi.
C'était l'un... Alors, vous êtes parti faire le tour du monde parce que l'un voulait aller en Mongolie et l'autre en Syrie.
Exactement.
C'est la première...
On est parti parce qu'on avait tous les deux envie de partir, en fait.
Bon.
Mais Isabelle avait un rêve à vivre et moi un autre. Et oui. On a fait une sorte de mélange des deux.
Et vous croyez qu'il faut quand même un rêve au départ, même si après, c'est tout à fait différent de ce qu'on estime?
Il faut un but. Ça, je pense vraiment qu'il faut un thème.
Pour pédaler les bas.
C'est pas pour pédaler, parce qu'en fait, pédaler, finalement, c'est la chose la moins fatigante du voyage. En tout cas, d'une autre. Mais il faut un thème, je pense, pour un voyage. Oui. Parce que voyager sans but, ça reste toujours voyager, c'est toujours très sympa et tout. Mais je pense que le thème oblige à aller rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés autrement. Et ça change tout.
Alors, l'Italie, donc, vous avez traversé l'Italie, puisqu'après, votre idée est de partir en Afrique du Nord. Donc, vous avez traversé toute la botte?
Oui, en passant par Gênes, Florence, Rome, Napoli. Puis après, on est descendu vers Reggio di Calabria, oui. Vers la Sicile. Et on a enregistré des chants de la Semaine Sainte à Rome, en fait. On n'y était pas pendant la Semaine Sainte, mais on a rencontré une troupe de théâtre qui interprète des chants de la Semaine Sainte dans une sorte de pièce théâtrale et musicale très, très intéressante. Et donc, ça fait partie des musiques qu'on a enregistrées là-bas en Italie.
Voilà, donc ça, c'était la première étape. Alors, vous traversez la Méditerranée pour vous retrouver, premier point, dans quel pays?
En Tunisie.
Tunisie. Donc, alors, voilà. Comment ça se passe là-bas? Tout de suite, vous avez été heureux de vous retrouver dans ces terres. Ça se rapprochait de la Syrie, d'accord? Comment ça se passe?
C'était le début d'un dépaysement, forcément, et les gens étaient déjà incroyablement accueillants. On sentait qu'il y avait un contact très différent avec les Tunisiens. Et juste quand on sortait de Tunisie, on est arrivé vers la Libye, tous les gens nous disaient « J'espère que vous avez une escorte, attention, c'est très dangereux en Libye, vous allez vous faire égorger, détrousser, ce sont tous des voleurs. » Et on est tombé sur les gens qui étaient parmi les plus sympas de la planète, en Libye.
Donc, quels gens étaient-ce? Qu'est-ce qui c'était?
Des gens de la rue, des gens...
Des Libyens, ce qu'il faut dire quand même en Libye. Oui, non, mais c'est pas une anecdote. En Libye, il y a presque plus d'immigrés qui viennent travailler que de Libyens. Et alors, ça, c'est un truc qui est assez marquant, c'est que les Libyens sont d'une gentillesse désarmante, surtout avec nous, petits occidentaux, blancs, ils mangent beaucoup de choses. Mais avec les immigrés, c'est très, très difficile. Ils ont des conditions de vie extrêmement difficiles, les immigrés qui viennent en Libye. Et sans arrêt, en fait, on s'est rendu compte de notre chance pendant le voyage. Nous, en tant qu'occidentaux privilégiés, voyageurs, on était très, très, très bien accueillis. Mais incroyablement, surtout dans les pays musulmans, faut bien le dire aussi, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Mais cela dit, c'est fou de voir à quel point ça change tout de venir d'un pays protégé, quoi, comme la France, de venir d'un pays privilégié.
Plutôt. Et vous aviez le sentiment que le fait de la France comptait pour eux par rapport à un autre pays européen, ou c'était l'Europe inconnue?
C'est difficile à dire. Je pense que si on avait été espagnol ou...
À peu près pareil.
Enfin, c'est vrai qu'en général, les gens aiment bien la France.
Il y a une sorte d'image, oui, une aura.
Ouais.
Mais cela dit, le fait de venir d'un pays qui ressort un petit peu du lot, en tout cas un pays avec une certaine culture et qui véhicule une image, ça aide.
Alors, sans indiscrétion, vous aviez un budget qui était important? Vous l'aviez subventionné, sponsorisé pour partir comme ça?
On avait un budget d'à peu près
200... Un ingénieur informaticien, ouais. Ça doit savoir faire ça.
Et oui, il a bien fallu passer par là. Donc on avait un budget de 270 000 francs à peu près. Ça englobait tout le matériel et la survie sur place, toutes les communications. Le matériel, c'était 100 000 francs et le reste, 160 000 francs pour manger, vivre, téléphoner, se promener, voyager en avion. Dans tout ça, on a mis de notre poche 130 000 francs. Tout ce qu'on n'a pas mis dans notre poche, c'était du sponsoring.
Avec la promesse de faire des photos de quelque chose, enfin...
Oui, Isabelle est photographe, donc l'idée c'était de faire des reportages pour des magazines. D'autre part, on avait une caméra vidéo qu'on utilisait pour tourner des films qui sont diffusés par la maison de production Bonne Pioche sur des télévisions du câble.
Et donc, nos auditeurs peuvent vous retrouver sur...
En ce moment, sur Voyage, oui.
Sur l'émission Voyage. Ah, ouais. Voilà. Ouais, et la maison production s'appelle Bonne Pioche.
Oui.
Oh, c'est charmant, Bonne Pioche. C'est assez merveilleux. Alors, en Libye, vous avez longé la côte, vu les anciennes cités romaines, les Psismania, tout ça, ou vous êtes entré dans l'intérieur du pays?
Effectivement, on est passé par les Psismania et tout, mais on est aussi descendu vers l'oasis de Gat, qui est près du nord du Tchad. Et là, on a enregistré cette musique qu'on va entendre maintenant.
Voilà, on va donc aller tout de suite à la musique de Libye, qui est étonnante.
Oui, ça nous a énormément plu, cet endroit. C'était l'oasis de Gat.
Là, c'était le Portugal. Les musiques s'écoulent vite, donc on a le Portugal, vous aviez choisi le retour, c'est autre chose. Donc pardonnez-nous nos auditeurs, c'est le numéro suivant. Isabelle et Xavier Véron, ça demande, c'est des instruments très compliqués. Comment était ce un groupe que vous avez, où l'avez-vous rencontré?
Alors là, si vous fermiez les yeux en écoutant la musique, on était au milieu du désert dans le Sahara, à Gat, et les instruments sont très traditionnels. C'est un oud, c'est-à-dire un instrument avec quatre cordes, qui ressemble un petit peu à une guitare, accompagné par des darboukas, c'est des percussions, et des bendirs, des petits tambours. C'est des instruments relativement simples et primitifs, pas très très évolués, mais qui dégagent un son et une atmosphère sur place.
Vous pédaliez, puis vous avez rencontré ce groupe, ou comment est-ce que ça s'est passé?
Pour celui-là en particulier, en fait, on avait rencontré un Touareg qui venait d'Algérie, qui s'appelait Rami Mebarki, un type vraiment très très gentil. Et on l'avait rencontré avant le départ à Paris. Et lui, il connaissait cette oasis, en fait, c'est à Fewet, c'est tout près de Gat. Et c'est une petite oasis qui s'appelle Fewet, et c'est la famille Leji. Et c'est une famille de nomades, de Touaregs, qui se sont sédentarisés à Fewet, et qui sont vraiment les musiciens de la région. C'est eux qu'on appelle pour les mariages, etc. Donc ils nous avaient dit qu'ils étaient là. Donc là, pour le coup, on a fait 2500 km de détour, parce qu'on savait qu'on allait les trouver.
Ah, ça, j'aime beaucoup, ça. 2500, rien, quoi. 2500,
non, parce qu'on a triché. On a mis les vélos dans un bus, et on a continué en stop et à vélo. Mais ça nous a beaucoup plu, d'ailleurs, parce qu'en stop, on faisait du stop dans des pick-up, donc les camionnettes débâchées à l'arrière. On avait la tête au vent dans des paysages somptueux.
Oui, même... c'est une bonne idée pour le voyage.
Ah oui, ça c'est super. Ça, c'est super.
Et aussi, je pense que pour les gens sur place, quand ils ont su qu'on avait fait 2500 km de détour pour les voir, ils étaient relativement touchés. Ils savaient que c'était leur culture qui nous attirait, donc eux indirectement. Et forcément, ça...
Alors vous avez passé toute une soirée avec eux, comme ça
10 jours avec eux.
On a passé 10 jours. Et en plus, ce qui était vraiment intéressant, c'est que Gat, c'est quand même un endroit qui est un tout petit peu touristique, puisque c'est juste à côté du massif de l'Akakous, où il y a des grottes rupestres qui sont incroyables, sublimes, qu'on n'a pas vues d'ailleurs. Et en fait, d'habitude, les touristes qui viennent ici viennent pour louer un 4x4 et aller dans l'Akakous. Et quand on est arrivé à Gat, on a été accueillis par les Touaregs qui au début nous ont proposé leur service pour louer un 4x4 et tout. Et quand on leur a expliqué qu'on était venu pour enregistrer des musiques, ils nous ont vraiment pris sous leur aile. nous ont installés dans des petites cabanes au pied des dunes et tout. Et tous les jours, ils nous amenaient les musiciens, ils nous ont invités dans les mariages. Enfin, c'était incroyable, on était pris en charge par eux.
En quelle langue pouviez-vous parler ? Parce que tout à l'heure, je me suis dit, la musique, c'est quand même une langue universelle. Enfin, pour s'exprimer, le libyen, c'est un dialecte arabe. Enfin, c'est pas évident. Comment est-ce que vous vous parliez avec tous ces gens dans tous les pays, que ce soit en Mongolie, au Vietnam,
en Libye,
bon.
Là, en Libye, dans cette oasis, il y en avait un ou deux qui parlaient anglais et qui nous servaient un peu d'interprètes, qui étaient très drôles, tous les deux, Hassan et Magadji. Et puis sinon, on parlait un tout petit peu arabe. Mais choya.
Et on s'est mis à parler arabe plus au fur et à mesure de la traversée des
pays. Et ça faisait partie de la promesse du voyage en Syrie, ça.
Oui, tout à fait. Mmh. Oh, ben, c'est important. On parlait pas bien. On conjuguait pas les verbes. Tout était au singulier. Et il y avait pas de présent à parfait futur. C'était que présent. À l'infinitif même.
Nahnu atakalam arabia choya. La katir.
Exactement.
Donc, je vous crois sur parole.
C'était primitif, mais c'était amusant. Et les gens, de toute façon, voyaient bien qu'on avait fait un effort. On avait sur les bicyclettes des petits pupitres sur lesquels on disposait un carnet de vocabulaire. Et on pouvait apprendre tous les jours en roulant.
Tous les jours, vous appreniez en roulant. Voilà. Parce que vous pédalez combien d'heures par jour, à peu près ?
Oh là là, ça varie tellement selon les jours.
Bah oui.
Voilà.
Il y a des jours où on pédalait une heure et puis on s'arrêtait pour se mettre chaud, en face de l'ordinateur pour travailler.
Oui, c'était pas qu'une question de chaleur, c'était aussi une question d'organisation selon les choses qu'on avait à faire. À cause de tous les projets culturels qu'on avait, on avait beaucoup de travail. Donc, quelquefois, on roulait une heure, quelquefois, on roulait six heures. Ça dépendait vraiment de l'organisation de la journée.
Alors, après la Libye ?
Après la Libye, l'Égypte.
Oui, alors où êtes-vous allé en Égypte ?
On a longé la côte quand on est sorti de la Libye. En fait, c'est en Libye qu'on a commencé à se séparer. C'est un petit peu important. C'est-à-dire que tous les deux, on savait qu'on irait jusqu'à Pékin, puisque c'est ce qu'on avait dit à nos proches et on ne pouvait pas faire demi-tour. Puis on avait besoin de ce voyage, mais... On n'arrivait plus à communiquer ensemble, en fait. Et on était en train de...
C'est dur de...
On n'est pas un couple, donc je pense que c'est beaucoup plus dur que pour un couple.
D'accord. Donc, rendez-vous à Pékin ?
Non, quand même pas. Non, parce qu'on était très complémentaires et on avait tellement de choses à faire qu'il n'y en a pas un seul de nous deux qui aurait pu tout assumer. Et de toutes les façons, il n'en était pas question.
On enregistrait les musiques les uns des autres, les films. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé donc après la Libye ?
Donc, on se séparait à intervalles réguliers, on se séparait pour une semaine ou deux semaines, et on se retrouvait. Oui. Et quand on se retrouvait, on essayait de rencontrer là des musiciens, de s'organiser pour faire nos petits reportages.
D'accord. Alors, ma curiosité est grande, comme celle de ceux qui nous écoutent. Vous, Xavier, donc, à partir de la Libye, vous partez par où ?
À partir de la Libye, je suis parti vers l'Égypte, et Isabelle aussi, mais en différé. Isabelle avait 4 heures d'avance sur moi, quand on s'est séparés à la frontière entre la Libye et l'Égypte. Et ces 4 heures d'avance, on les a augmentées, c'est-à-dire que j'ai freiné des 4 fers. Isabelle a accéléré, ce qui fait qu'en fait, au bout de quelques jours, elle avait une journée d'avance. Et on s'est retrouvés. En plus, je suis tombé malade au fur et à mesure que je roulais. Et donc, je suis arrivé avec une journée de retard à Alexandrie, où je retrouvais Isabelle. Alexandrie, on a essayé de trouver des musiciens, on n'a pas trop trouvé. En revanche, on a eu des belles ambiances, on a enregistré de belles ambiances. Et on s'est ensuite dirigé vers le Caire.
Et vous, pendant ce temps-là, vous aviez, en faisant votre forcing, là, vous étiez allé directement à Alexandrie.
Oui, en plus, c'était... après la Libye, après 3 mois de voyage, j'avais vraiment besoin d'un environnement culturel. Ça m'avait beaucoup manqué de pas voir de musée d'art moderne. En fait, je me suis rendu compte en Libye que l'art était un besoin au même titre que manger ou dormir et tout. Et à Alexandrie, je me suis jetée à l'Alliance française dans la bibliothèque parce que c'était le seul endroit où je savais que je pourrais trouver des bouquins. Ça m'a marrant, donc ça m'a complètement ressourcée.
Et qu'est-ce qui est la première chose que vous avez lue à l'Alliance française ?
J'ai d'abord regardé des bouquins de photos puisque c'est le média qui m'intéresse le plus, donc Koudelka, William Klein, des choses comme ça. Et puis après des bouquins d'art moderne, des choses comme ça.
Peinture aussi.
Peinture, ouais.
Puis alors, vous n'étiez pas au courant de ce qui se passait dans le monde aussi quand même ?
Un petit peu, on essayait d'acheter des journaux.
Écoutez, moi en Libye, vous me feriez acheter un journal, un quotidien arabe, pour moi ça me dirait, je pourrais rien comprendre.
Non, puis ça sert pas à grand chose en Libye, puisque ce sont des organes du pouvoir, surtout en Tunisie. En Tunisie, c'est effarant. C'est vraiment...
Oui, alors raison plus, bon, d'accord.
Mais on arrivait quand même à se tenir au courant.
Et en fait, quand on passait dans une capitale, on essayait d'aller à l'ambassade de France, on faisait une radia sur tous les journaux dont il n'y avait plus besoin, c'est-à-dire les Figaro, Libération et Le Monde, qui traînaient depuis 3 mois dans leur sous-sol. Et on reportait avec 2-3 kilos de journaux et de magazines dans les sacoches, et on les épluchait petit à petit.
Oui, c'est la distraction du soir, quoi. C'est ça. Et vous n'aviez pas emmené de lecture personnelle du tout ?
Oh, si. Si. Puis on se faisait envoyer des livres.
Et quel était le livre favori de chacun pendant ce voyage ?
Alors, pendant très longtemps, ça a été le Coran.
Le Coran ?
Voilà.
Ton livre favori, vraiment ?
C'est celui que j'ai lu pendant 2-3 mois. C'est...
Mes favoris, c'est le mot.
Favoris, je sais pas. Non, pas vraiment. Mais en tout cas, c'est intéressant.
C'est intéressant. Et vous, Isabelle ?
Moi, j'ai lu L'usage du monde, que j'ai adoré, évidemment, Nicolas Bouvier. L'Abyssin, de Jean-Christophe Ruffin, que j'ai trouvé excellent aussi. Et puis après, j'en ai lu pas mal. Je me souviens plus vraiment de tous, quoi.
Voilà. Alors, arrivé au Caire, après, donc, vous êtes retrouvé au Caire. Donc, toujours pas de groupes musicaux à votre convenance.
Oh là là, au Caire, on a une découverte fabuleuse. On est tombé sur un concert incroyable de Abdou Daguer, qui est un compositeur et interprète, qui a subi des influences européennes et qui joue du violon merveilleusement. Alors, à partir de ce concert, on s'est délecté,
Donc là, c'est un peu le contraire de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est un instrument européen interprété par un arabe.
Alors oui, mais ça fait quand même longtemps que le violon fait partie de la musique classique arabe. De toute façon, le violon n'est pas un instrument extrêmement ancien non plus, et il est apparu très vite aussi dans la musique orientale.
Donc ça, c'était assez un moment merveilleux.
Oui.
Vous avez pu parler avec...
Pas avec Abdou Daguer, parce qu'il était de passage. On a eu avec lui un quart d'heure de conversation. Mais avec son élève qui était excellent, qui jouait du oud,
c'était... On l'a retrouvé quand même à Abdou Daguer chez lui.
On l'a retrouvé chez lui.
Nous... C'est quoi, l'oud ?
Oui, l'oud, pardon, c'est du luth, avec 4 cordes. Et...
Ça fait rêver, hein, ça fait conteur oriental, luth, c'est assez merveilleux. Alors, les secondes coulent, hein, parce que vous essayez d'aller derrière vous, nous n'avons malheureusement pas des heures et des heures. Alors, grande halte après, donc vous vous retrouvez en Iran.
Oui, en étant passé par la Jordanie, la fameuse Syrie, la Turquie, on est arrivé en Iran et à Ispahan, en Iran, on n'a pas eu de chance. C'était le mois de Moharram et toute musique est interdite pendant le mois de Moharram. On savait pas évidemment. Et par contre, on a pu enregistrer à Ispahan le Zourkhane qu'on va entendre là et qui est une sorte de musique qui accompagne la gymnastique traditionnelle persane. Donc il y a à la fois des louanges à Dieu et des poèmes épiques de la mythologie persane en fait.
Nous sommes sur Fréquence Protestante 01 45 72 6000 en compagnie d'Isabelle et Xavier Véron qui nous font partager leur voyage autour du monde. J'allais traverser le monde parce que ça a été tout rapide. Nous venons donc d'écouter ces musiques iraniennes, mais vous me dites que parmi les pays extraordinaires qui vous ont le plus marqué, il y a eu la Libye, il y a eu cette Syrie avec le sentiment de liberté totale et de gentillesse extrême des gens, et puis... Donc vous disiez aussi
Pakistan.
Le Pakistan, alors.
Ah, qui ressort du lot.
Le Baloutchistan surtout, pour être précis.
Alors, en quoi est-ce que ces pays-là sont tellement émouvants ?
par la façon naturelle et spontanée dont les gens vous accueillent, vous offrent tout, vous demandent rien, vous sourient. Surtout que c'est des pays qui font tellement peur. Le Pakistan, c'est un pays, oui. Surtout en ce moment, c'est un pays qui fait très peur. On a l'impression que les gens sont tous des terroristes, des assassins, des islamistes. Et on n'avait pas la même religion qu'eux. On était infidèles. Dans le Coran, il est marqué « Mieux vaut la guerre que les infidèles ». Donc on avait toutes les bonnes raisons du monde pour pouvoir croire que c'était un pays dangereux. D'ailleurs, au début, on pensait pas y aller. C'était difficile parce qu'on pouvait même pas manger ou boire quelque chose sans être obligé de se battre pour pouvoir payer ce qu'on consommait. Les gens voulaient tous nous l'offrir alors qu'ils gagnent rien. Et quand on leur disait mais non, ils prenaient ça comme une offense. Oui. Et ils nous disaient ça me fait plaisir, you are my guest, bienvenue. Et ils nous disaient aussi souvent tu diras dans ton pays que les Pakistanais sont des gens gentils et tout. Ils sont tout à fait conscients d'être montré du doigt par l'humanité tout entière, alors que l'accueil qu'on a reçu là-bas, ça n'a rien de comparable avec ce qu'on peut recevoir en Europe, où on se fait parfois jeter quand on demande un verre d'eau.
Mais, je veux dire, est-ce que vous n'avez pas rencontré d'extrémistes, enfin, vous savez, de fanatiques musulmans que vous auriez vus même dans la rue, à côté des gens très gentils? Jamais.
Alors ça dépend ce que vous appelez fanatique musulman, mais en général, vous savez, on peut faire une grosse distinction entre les organes du gouvernement qui ont intérêt à maintenir une certaine violence et pression avec les pays étrangers pour pouvoir mieux contrôler leur population et garder ce pouvoir, avoir une légitimité à ce pouvoir, et donc les gens de la rue qui, eux, n'ont qu'une envie, c'est d'avoir des enfants, avoir une vie qui marche, pouvoir cultiver leur jardin et ne pas être en guerre en permanence.
Cela dit, c'est vrai que ça nous arrive assez souvent d'avoir des conversations. Moi, pas mal de fois, j'ai discuté avec des Pakistanais qui me disaient « Osama Ben Laden, Quiz, c'est un type super et tout ». Et quand j'essayais de parler avec eux, à l'époque, évidemment, il n'était pas très connu, Osama Ben Laden, mais je savais juste qu'on lui reprochait les attentats d'Arusha et de Nairobi. Et quand je leur expliquais qu'il avait quand même assassiné des gens qui n'y étaient pour rien, et ça aurait pu être eux qui bossaient à l'ambassade, c'était même pas forcément des Américains, ils me disaient « Oui, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, c'est quelqu'un de bien, c'est un bon musulman ». Donc c'est vrai qu'il y avait cette violence cachée, mais en tout cas, avec nous, ils montraient rien du tout. C'est complexe, c'est clair, hein, parce que ce sont des gens qui sont aussi extrêmement manipulés depuis leur tendre enfance. Ce qui est beaucoup d'être dit aussi, c'est que dans la plupart des pays par lesquels on est passé, l'éducation, c'est simplement du bourrage de crâne. On n'apprend pas aux gens à réfléchir, pas.
Vous avez vu des écoles, par exemple, justement, pour pouvoir dire ça?
On en a vu quelques-unes, et puis on a surtout parlé avec toute classe de population, donc... On a parlé à la fois avec des gens qui nous disaient ça parce qu'ils le savaient, qu'ils le comprenaient, parce que eux, ils avaient eu la chance d'aller dans des écoles un peu plus évoluées, entre guillemets. Et on a aussi vu la conséquence sur des gens très gentils qui nous accueillaient, qui étaient vraiment irréprochablement gentils, mais on voyait qu'ils étaient complètement façonnés par l'éducation qu'ils avaient reçue.
Et qu'en fait, on peut faire une belle distinction entre une éducation où on apprend tout par cœur, c'est son voyage chez eux, mais apprendre par cœur, zéro analyse. Et une autre éducation, je dirais, ce qu'on a plus chez nous, où on nous force à avoir un esprit critique et on nous dit, remettez en cause l'article que vous avez devant vous, parce qu'il vous raconte peut-être n'importe quoi. Mais on vous demande de parler de cet article et de rapporter ça par rapport à vos connaissances.
Oui. Au Moyen-Âge, en France, souvent, on voit des écoles où on apprenait beaucoup par cœur.
Hein,
bien sûr, bien sûr.
On n'est plus au Moyen-Âge.
Et les femmes, vous avez senti...
C'est un sujet difficile. Il faut pas trop m'embarquer là-dessus.
Parce que oui, je pense qu'en plus, c'était un sujet sensible. Vous, comme femme, vous avez pu en rencontrer qui se sentaient...
Oui, énormément, évidemment. En fait, ce qui était intéressant, c'est que quand j'étais avec Xavier, on faisait comme un couple. Et les réactions des gens étaient totalement différentes de quand j'étais seule. Et sinon, pour parler des femmes... Au bout d'un moment, ce qui est difficile, c'est de se rendre compte qu'elles reproduisent tellement les schémas familiaux, ce qu'elles ont reçu. Parfois, elles expriment une certaine envie de pouvoir se libérer du voile. Le voile, c'est un détail, mais c'est pas anodin. Parce que moi, par exemple, en Iran, j'étais obligée de porter le voile. Et quand je l'avais pas, je me sentais nue. Et c'est une prime, quelque chose qui est beaucoup
voile
plus...
très important comme voile.
Non, moi, à vélo... En tant qu'occidentale, j'avais le droit de ne pas porter le tchador, parce qu'en plus, le tchador, c'est quand même conçu pour être obligé de le tenir de l'intérieur, pour pas être libre de ses mouvements. Il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment...
Alors, à vélo, c'est dur, hein, donc vous avez bien...
Oui, non, mais ça, je l'avais pas, heureusement. Mais il y a plein de choses comme ça qui sont exaspérantes, mais ce qui m'a le plus exaspéré, c'est de voir que ces femmes reproduisaient vraiment les schémas, qu'elles apprenaient à leurs petits garçons à mettre les pieds sous la table, aux petites filles à leur servir d'esclaves et tout. Donc c'est très énervant. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de femmes aussi des pays musulmans qui nous envient pas du tout, parce que elles sont persuadées que dans nos pays, la famille n'existe plus, que
l'instabilité du couple est absolue.
Que l'instabilité du couple est absolue.
Mais alors, par exemple, quand vous faisiez écouter de la musique et quand vous enregistriez la musique, c'était toute la famille, hommes, femmes réunis. Vous aviez un sentiment d'une hiérarchie importante entre eux, ou les femmes avaient droit d'écouter tout autant?
Alors ça dépend des pays. Dans certains pays, les femmes n'étaient jamais là pour chanter ou pour jouer.
On
ne les voyait pas de toute façon. Elles n'étaient pas enfermées à la cuisine, mais elles restaient spontanément à la cuisine parce que c'était leur culture, c'était leur façon de vivre. Dans d'autres pays comme la Libye, chez les Touaregs, les femmes chantaient ou battaient des mains ou jouaient du stambali avec les hommes. Donc ça dépend vraiment du coin dans lequel on est. Mais les femmes ont rarement les mêmes droits que les hommes.
Ah, c'est clair. Et puis je compte pas le nombre de fois où on m'a dit « Oui, mais toi, t'es courageuse, ma femme, elle est fainéante, elle ferait jamais ça et tout. » Et la femme, pendant ce temps-là, elle était en train de faire la cuisine, torcher les mômes,
et
laver la
maison. Et alors, qu'est-ce que vous disiez à ça?
Ben, je leur disais « Mais est-ce que tu la laisserais faire? Est-ce que tu laisserais faire? Surtout, est-ce que tu laisserais partir ta fille? Est-ce que tu lui donnerais les moyens de pouvoir faire
réponse.
Ce que je fais ?» Réponse, soit de la mauvaise foi totale, soit non. Avec Xavier, on a eu des conversations atterrantes avec des gens qui étaient vraiment gentils avec nous. C'est ça qui était difficile. On pouvait craindre de nous accueillir. Ils nous offraient l'hospitalité, la nourriture que préparaient leurs femmes. Et ils les traitaient de tous les noms et ils étaient odieux. Et nous, on essayait de les pousser à bout de leur raisonnement en leur faisant comprendre qu'ils les rendaient malheureuses et qu'ils s'en rendaient compte. Et il disait « Oui, mais c'est notre culture. » Et on lui disait « Mais oui, mais c'est ta culture, elle rend les gens malheureux. Est-ce que tu penses pas que peut-être que tu pourrais changer quelques petites choses ?»« Ah non, 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 c'est ma culture. »
Et en fait, tout a changé. Quand on est arrivé en Inde, les femmes se sont mises à avoir le droit de monter sur des scooters, quelquefois même de les conduire, je crois.
Bien qu'en Inde, ce soit pas non plus la panacée pour les femmes. Non. C'est plutôt en Mongolie, en Chine.
Alors, quelques secondes de musique des Indes pour nous donner ce sentiment qu'on roule à scooter à nickel, quand même. C'est important. Et puis on va filer en Mongolie. Pendant qu'on écoute ceci en fond sonore, Isabelle, cet homme, c'est quoi cette sitar? Qu'est-ce qu'elle est?
Non, c'est un sitar. Ça sitar. N'a rien à voir avec la sitar occidentale, qui est un instrument trapézoïdal et avec plein de cordes. Là, le sitar, ça ressemble à une sorte de guitare avec un manche très long et un petit corps rond. Et c'est cet instrument très résonnant. En fait, les cordes résonnent par vibration. Il agit que sur... Enfin, je suis pas très sûre de ce que je dis, en fait. Je vais me taire parce qu'on n'est pas du tout musique.
Mais pourtant, c'est une sonorité extrêmement indienne.
Ouais.
Quand on écoute ça, on se dit ça, je suis en Inde.
Indo-pakistanaise, plutôt. Le bloc indo-pakistanais.
Voilà. Et là, c'était un homme fabuleux.
Ah oui, c'était un musicien hors pair. Il arrivait à provoquer une émotion avec son sitar. C'est quelque chose que j'ai rarement vu, quoi.
Et la foule autour, vous avez entendu dans quelles circonstances?
C'était un concert privé dans une ashram de musique qui s'appelle International Music Center, comme beaucoup de choses à Bénarès, avec des gens complètement passionnés qui font des concerts, qui font payer. On reçoit un petit ticket sur lequel il est marqué Charity for Artists. C'est marrant. Et on entend, je savais pas du tout ce que j'allais entendre dans cet endroit. Xavier était à Delhi pour régler des problèmes administratifs très pénibles. D'ailleurs, je le remercie de s'en être occupé. Et moi, je suis allée là sans savoir ce que j'allais trouver et j'ai entendu ça et j'en croyais pas mes oreilles.
La nuit a été transformée.
Bah d'ailleurs, la nuit, oui, c'est un gage rare. C'est-à-dire que ce raga, vous trouverez jamais un seul musicien honnête qui acceptera de vous le jouer autrement qu'entre 8h et 9h du soir. Les ragas sont des musiques qui sont conçues pour être jouées à certains moments de la journée et pas à d'autres.
Ça, c'est aussi très beau comme idée que
c'est magnifique.
Correspond à un
moment. Et puis il y a aussi des ragas masculins et des ragas féminins. Et les ragas masculins sont plus homogènes, dégagent plus de force et d'unité. Les ragas féminins sont plus délicats, avec plus
sensualité un peu.
De sensualité et aussi de petits détails auxquels on ne penserait pas
volute
forcément.
En quelque sorte autour. Alors, quelques secondes sur un des derniers pays, parce qu'après vous allez prendre le Vietnam, après le Brésil, et j'espère que vous reviendrez à notre radio pour ceci. De toute façon, votre livre Écho d'Orient va sortir aux éditions Transboréales, donc on pourra vous retrouver, puis j'espère que sur donc la télévision, le câble Voyage, on dit pour vous dire au revoir. Alors c'est aussi fabuleux que la Syrie, puisque ça c'est ce que vous vouliez, vous, la Mongolie.
Alors la Mongolie, oui, c'est un dépaysement absolu. Isabelle a pu vivre son rêve en s'achetant deux chevaux et se promenant dans la steppe.
Et vous, non?
Moi je roulais à vélo. C'est vraiment mon truc, le vélo. Et
c'est pas mon truc.
Et donc on se trouvait là aussi à intervalles réguliers, et quelquefois on tombait sur des musiciens extraordinaires, et celui qu'on a enregistré là, c'était un des meilleurs qu'on ait eu pendant le voyage. Et ces musiques-là, je pense que c'est celles qui nous ont quasiment le plus touchés du voyage.
Celle de Mongolie.
C'est très alors, différent
comment
de
est-ce
tout ce qu'on peut connaître.
Voilà, alors qu'est-ce qui, justement, on va commencer à écouter tout doucement, mais qu'est-ce qui fait que la Mongolie vous touche tellement? C'est quand même une civilisation qui apparemment serait loin de nous. Qu'est-ce qui touche? Est-ce que c'est parce que vous étiez des voyageurs et que vous rencontriez des nomades, ou qu'est-ce qu'il y a?
Moi j'ai un exemple qui m'intéresse pour répondre à votre question, c'est que pourquoi est-ce que c'est en Mongolie que le sabbat mater a le plus touché? Je pense qu'il y a quelque part une proximité dans les goûts et dans la façon de jouer, dans la formation de l'oreille. Je pense qu'on ne peut pas nier cet aspect-là.
Oui. Moi, ce qui m'intéresse surtout avec la Mongolie, c'est que c'est vraiment une terre de nomades qui vit totalement en accord avec la nature. Ils vivent de la même façon qu'ils vivaient il y a plusieurs milliers d'années. Et ils sont très, très à la fois respectueux de la nature, très spirituels quelque part. Et puis surtout, ils sont incroyablement débrouillards et résistants à tout. Ils ont quand même tous les ans, ils doivent supporter des hivers de moins 40, moins 50 degrés, alors qu'ils n'ont pas d'électricité, pas de chauffage, rien. Et ils ont développé un système d'adaptation à leur environnement naturel qu'on trouve rarement. Nous, on serait incapable de survivre sans électricité maintenant, surtout dans les villes. On sait même plus chercher sa nourriture. On est habitué à tout avoir, tout prêt, tout fait. Les Mongols, ils savent tout faire.
Et ils étaient à cheval.
À cheval, oui, c'est évidemment, c'est le cheval, c'est leur moyen de transport.
Venant de si loin, vous leur avez expliqué
alors là, par contre, là pour le coup, la barrière des langues, c'est pas franchissable avec les Mongols.
C'est pas franchissable, des langues difficiles. Donc, comment est-ce que vous avez pu faire?
On se débrouillait
avec des gestes.
Je parlais avec des gestes. En plus, j'ai eu quelques petits problèmes. J'avais au début un guide en mongol, un survival guide de Lonely Planet, là. Il a disparu dans la steppe parce que ma jument de bas, qui a porté toutes mes affaires, s'est échappée. Elle a disparu en faisant tomber toutes mes affaires dans un champ grand comme Paris. Donc j'ai perdu ce truc notamment. Et après, je me débrouillais comme je pouvais, mais on peut pas réellement parler d'échanges communicatifs avec les Mongols.
Voilà, ben, les secondes coulent. Alors on va vous laisser l'une à ses chevaux et l'autre à son vélo, tous les deux. Quelque part, c'est ça que j'aime bien, c'est de penser qu'on vous quitte, vous continuez votre voyage. Et j'espère de tout cœur que vous reviendrez. Merci tous les deux, Isabelle et Xavier Véron, de votre livre « Écho d'Orient » chez Transboréal. Et on va écouter cette musique de Mongolie.
Le chant diphonique. C'est le chant diphonique. Ça va surprendre certaines personnes. C'est bien un chant. Il s'accompagne juste d'un petit instrument à cordes. Mais ce qu'on va entendre, c'est sa voix.
C'est sa voix. Il y a qu'un seul instrument. Sur fréquence protestante, 01 45 72 6000. Merci à nos deux voyageurs.